Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a choisi de se nourrir d'optimisme et de s'accrocher à cette compétence lors des moments les plus compliqués de sa vie. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Et Amal Hihi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va là, Amal?
Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien, une reprise en douceur.
Eh ben, super. Alors Amal,
motivée.
Motivée, bien sûr. Et pleine d'espoir, comme votre prénom d'ailleurs, et tout votre parcours de vie est empreint d'espoir.
Et on fait en sorte, en tout cas.
Pourquoi je dis ça? Parce que, justement, vous avez, il y a 14 ans, décidé de changer de vie professionnelle, de quitter le confort du salariat et d'aller vers l'entrepreneuriat et vers l'accompagnement des autres. Et depuis, en fait, vous dites qu'il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours avoir de l'espoir.
Oui, c'est sûr. De toute façon, l'optimisme est une compétence. C'est quelque chose sur laquelle il faut travailler parce qu'on reste des êtres humains et qu'on peut avoir des downs comme tout le monde. L'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une ligne droite. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'espoir que ça va toujours s'améliorer. Et cet optimisme nous pousse justement à aller de l'avant et surtout à se remettre en question en permanence.
Alors, comment se remettre, bien sûr, de par votre expérience, parce que vous êtes l'invitée, vous êtes la protagoniste, vous êtes le case study du jour, comme on dit. Comment garder son optimisme quand on remet en question les choses? Je m'explique. Quand on remet en question, c'est que forcément, il y a un mal-être, de mon point de vue à moi. Il y a un malaise, il y a un mal-être, et donc il y a une remise en question. Quand on est bien, on ne se remet pas en question, on ne remet pas en question son environnement personnel ou professionnel, etc. On est bien, il n'y a pas de raison de se poser des questions. Et comment rester positif tout en remettant en question? Parce que quand on remet en question, on remue un petit peu ce qui va mal. Comment vous arrivez, Amal, à remettre en question les choses tout en restant positive?
Alors, ta question, Yasmine, et ta remarque sont pertinentes. Maintenant, moi, je partage avec vous ma façon de faire.
Oui, absolument, c'est ce qu'on veut.
Moi, je me remets en question même quand tout va bien.
OK.
Alors, je m'explique.
OK.
Quand on est entrepreneur, je parle de l'entrepreneuriat.
OK.
Quand on est entrepreneur, nous sommes dans un marché qui est tout le temps en évolution et en pleine mouvance. Et donc, il y a tout le temps des entrants, des sortants, des choses qui évoluent, surtout actuellement. Ça bouge très, très vite. Et donc, quand tout va bien, on se dit tout va bien, ça y est, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à changer, j'ai rien à apprendre, on peut très, très vite être dépassé. Et donc, c'est pour ça que cette question de dire qu'est-ce qui se passe autour de moi, d'être tout le temps vigilant à ce qui se passe autour de soi, à l'évolution du marché, à l'évolution du besoin et de la demande de nos clients. Ce qui se passe dans notre secteur,
okay.
Pour justement anticiper quand les choses ne vont pas bien.
Alors
c'est le premier point.
Voilà, ça je le conçois parfaitement. Pardon, Amal, ça je le conçois parfaitement professionnellement. C'est ce qu'on appelle faire de la veille. Voilà, être toujours là à guetter les nouvelles tendances, les changements, flairer, sentir l'évolution, etc. Ça, c'est bravo, justement. Et merci de le rappeler à tous les entrepreneurs et pas que, même au sein des entreprises. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais toujours guetter les tendances qui émergent. Pas celles qui sont déjà installées, mais celles qui sont en train d'émerger. Maintenant, dans la vie personnelle, pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un couple. Vous avez, par exemple, l'homme ou la femme qui se remet en question et l'autre qui va lui dire mais pourquoi, au moment où on va bien, c'est là où tu te poses des questions. Mais pourquoi tu vas chercher? Mais tu vois ce que je veux dire, en fait?
Oui, oui, je vois. Oui, c'est vrai que d'un autre point de vue, la vie, effectivement, ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on passe par des situations compliquées. où on peut effectivement se dire oui, mais on a presque envie de baisser les bras tellement on voit les choses difficiles, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et c'est là où l'optimisme justement joue un rôle très important. C'est qu'on se dit bon, voyons ce qui se passe là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Posons-nous les bonnes questions. Et on garde toujours cet espoir que demain sera meilleur. De toutes les façons, ce qui nous arrive, et le plus important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on va faire de ce qui nous arrive. Donc, les situations de la vie, parfois prévisibles, parfois imprévisibles, qui nous tombent dessus, elles sont là pour nous faire avancer quelque part. Tout est une question de perception. Et, de ce travail sur soi. En fait, c'est beaucoup de travail sur soi, mais un travail qu'on fait intérieur et pas extérieur. Parce que c'est comment garder un calme dans les situations difficiles, comment prendre le temps de réfléchir, comment garder cette capacité déjà de réagir et de ne pas se laisser émerger par ses émotions et être dans l'attentisme ou quoi que ce soit. Donc garder toujours l'espoir que si on agit, si on prend le temps de réfléchir, avec du recul bien sûr, parce que quand on est dedans, on
absolument.
Est trop...
Je voulais rebondir sur ça, parce qu'il faut laisser aussi les émotions arriver, par exemple la découverte d'une maladie, une séparation, un chômage, etc. On ne peut pas ne pas ressentir d'émotions. Les émotions sont là, on les
bien
vit,
sûr, bien
c'est
sûr.
Normal, elles nous envahissent, on ne peut pas lutter contre. Mais arriver un moment, c'est là où on prend du recul, où on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça?
Exact. Et de dire, finalement, ce qui arrive, de toute façon, ce qui est là, on ne peut pas le changer.
Changer, absolument.
Une
absolument.
Séparation, un problème, un chômage, quelque chose qui nous tombe sur la tête, c'est là, et on ne peut pas changer ce qui est arrivé. Maintenant, on peut agir pour rendre les choses plus agréables ou pour aller vers quelque chose de meilleur. Et ça va nous demander, bien sûr, de l'énergie, ça va demander de se mettre en action, ça va nous demander peut-être carrément de changer de style de vie ou de changer des comportements qu'on a toujours eu jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas facile. Mais en même temps, le fait de se dire « demain sera meilleur », parce que l'optimisme, ce n'est pas, non plus être utopiste. Il y a une différence.
Vous l'avez toujours été, vous, Amel? Ou c'est ce qui vous a décidé à changer parce que vous vous êtes dit « demain sera meilleur », à changer de cap de vie professionnelle?
La vérité, j'ai toujours eu quelque chose qui me dit bah, écoute, voilà, c'est là, donc il faut avancer. Je me suis toujours dit que, bien sûr, comme tout le monde, dans les situations difficiles de la vie, de me dire ok, c'est là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, prendre le temps aussi de vivre ces émotions, comme tu l'as dit, de les ressentir, d'en parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, d'avoir des moments d'âme, c'est normal, on est des êtres humains. Le plus important, c'est de ne pas rester là. C'est par la suite, une fois qu'on a pris le temps justement d'amortir le choc, on va dire, de rebondir en capitalisant sur nos forces intérieures et voir quels sont les leviers qui vont nous permettre d'avancer. Donc c'est quelque chose, bien sûr, que j'ai appris avec le temps. J'ai toujours eu ça en moi, mais c'est clair que je l'ai beaucoup développé au cours des dernières années, avec mon travail en plus, avec tout le travail que je fais sur moi. Et encore, il y a des moments où j'ai des downs, comme tout le monde, on reste des êtres humains. Et quand j'ai ces moments-là, ben, je les accepte. Je me dis, ça fait partie aussi de notre chemin de vie, et d'avoir des moments où on n'est pas bien, et c'est OK.
C'est ça, et en fait, vous avez dit, au début de l'entretien, vous avez dit que c'est une compétence qui se développe. Alors qu'on a toujours cru qu'en fait, être optimiste, c'est une nature. Être pessimiste, c'est presque un trait de caractère. Vous vous dites non, attention, l'expérience vous a démontré que non, c'est des compétences qui se travaillent, qui se développent.
Oui, parce que l'optimisme est très lié à la perception et comment j'interprète les événements. Donc, clairement, c'est une question de perception. Donc, si je me dis, vous le savez très bien, il y a un lien direct entre comment je pense, comment je lis la vie et ce que je ressens et comment je vais agir. Donc, si je me dis, rien ne va, c'est catastrophique, où on va, etc. Donc, je suis en train de me parler, j'ai un discours intérieur qui va forcément impacter mon état d'être et qui va m'empêcher d'agir. Parce que je me dis, ça ne sert à rien. De toutes les façons, quoi que je fasse, ça ne marchera pas, ça ne va pas aller, etc. Donc, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de... c'est une attitude aussi qui va un peu me mobiliser et qui va me permettre de mettre en action. Et le fait de changer, de travailler sur cette façon de percevoir, c'est qui est inconsciente à la base, le fait de voir que l'optimisme, finalement, c'est une compétence que je peux apprendre, que je peux mettre en place, parce que j'ai tout à gagner. De toutes les façons, personne ne sait de quoi est fait demain. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Mmh. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer.
Absolument.
Donc, puisqu'on ne sait pas, de toutes les façons, on ne sait pas, il vaut mieux dire, eh ben, demain sera meilleur. Et après, on verra ce qui va se passer. Parce que si je me dis que demain peut être meilleur, je vais avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller solliciter mes ressources et solliciter mes compétences afin d'avancer. Donc c'est ça la différence.
Oui.
C'est une question essentiellement de mindset.
Alors, à quel moment de votre vie, Amal, vous avez senti le plus que vous aviez besoin de vous accrocher à cette idée-là, malgré la difficulté de la situation? De vraiment vous accrocher à ce que vous dites là, à vraiment cette réalité de se dire demain sera meilleur. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment compliqué, délicat, où à la limite on perd espoir, vous avez perdu espoir, mais vous avez dû vous accrocher à cette idée-là?
Ouais, bah, le premier moment un peu difficile durant ma carrière, c'est quand je suis passée d'une manière assez, je dirais, c'était pas voulu à la base de la reconversion du salariat à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est venu à moi parce que la filière dans laquelle je travaillais a été cédée et donc on n'avait pas d'autre choix que de quitter l'entreprise.
D'accord.
Et à ce moment-là, ça pouvait être fataliste. Je pouvais me dire que voilà, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 40 ans à l'époque, donc c'est quand même un âge difficile pour rebondir en entrepreneuriat. Et j'ai eu un moment de down, c'est clair. Et puis par la suite, je me suis dit non, mais c'est au contraire, ça peut devenir une opportunité, ça peut être l'occasion de passer à autre chose, de faire les choses différemment, de justement d'avoir mon propre style, d'avoir ma propre entreprise. Et c'est comme ça que c'est reparti. Voilà. Et puis, tout au long de la vie, encore une fois, je vais aussi parler de la période difficile, de départ des enfants, qui n'est pas toujours facile à vivre pour des parents. C'est pas évident. On le sait, on sait qu'un jour ils vont partir, mais au jour où ils partent, c'est forcément un moment difficile. Et on se dit oui, mais maintenant, voilà, toute ta vie, tu as été maman, tu as été là pour accompagner tes enfants, etc. Et du jour au lendemain, il y a un vide qui s'installe. Ça peut être difficile aussi. Et donc là aussi, tu as besoin de te raccrocher à quelque chose qui a du sens pour toi, de retravailler aussi ta façon de voir les choses, de lire les choses, ta relation à tes enfants aussi, de la retravailler. Donc, tous les événements de la vie, quelque part, vont venir nous chercher dans cette capacité de rebondir, d'avancer, de croire que demain pourra être meilleur malgré les difficultés.
Et il est meilleur, donc, même quand les enfants partent, même on arrive à trouver du bon dans tout ça, pour tous les parents qui peut-être passent par cette situation-là maintenant, qui ont leurs enfants.
Oui,
est-ce qu'on finit par...
Ouais. Exactement. Ben, on finit par trouver du bon parce que au final, on se dit, et nous, ce qu'on cherche en tant que parents, c'est leur épanouissement. Mm. Ce qu'on cherche, c'est de savoir qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents, qu'ils sont épanouis, qu'ils vivent leur vie, qu'ils vivent leurs expériences aussi, avec les difficultés, les échecs, etc. C'est ça ce qui forge les jeunes. C'est ça ce qui nous a forgés, nous aussi, en tant que jeunes. C'est ces périodes-là où, de doute, etc. Et donc, finalement, tu te dis, moi, au final, en tant que parent, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? On veut le meilleur. On veut qu'ils soient bien. S'ils sont à côté de moi et ils ne sont pas bien, je ne gagne rien. Donc, c'est ça, en fait, la façon de revoir, de relire les événements. Et au fait, tu retravailles ta relation d'une manière différente. Et les moments de retrouvailles deviennent plus intenses. Et donc, heureusement qu'il y a la technologie aujourd'hui qui nous permet de nous rapprocher, de les voir, de leur parler. qui continue à perpétuer ce lien-là, ce lien fort, ce lien familial, qu'il faut d'ailleurs nourrir. Donc voilà, c'est une autre façon de gérer la relation au sein de la famille.
C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que vous pensez encore que 40 ans, c'est un âge compliqué pour rebondir professionnellement, après l'avoir vécu, vous, il y a quelques années?
Oui, je pense que c'est encore le cas. Moi, je pense que c'est encore plus tôt. C'est ce que je vois, en tout cas, avec les personnes que j'accompagne. Cette remise en question, qui est souvent reliée à l'âge, comme on dit, ça arrive de plus en plus tôt, même avant 40 ans.
Oui, la fameuse crise de la quarantaine, c'est ça?
C'est la fameuse crise de la quarantaine. Ce que je remarque, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ça leur arrive vers les 36, 37 ans, 3 ans avant la quarantaine.
Quarantaine, exact.
Donc en tout cas, c'est entre 37 et 42, hein, c'est forcément, on est un petit peu au milieu et on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les années à venir? Normalement, à cet âge, on est installé dans une activité professionnelle. Sur le plan personnel, là aussi, il y a un parcours. Je pense qu'on le sait tous, il y a cette problématique actuelle de se stabiliser dans un couple qui devient compliqué. Donc ça aussi, il y a cette remise en question, qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées à cet âge-là et je pense que c'est normal parce qu'on a déjà passé une bonne partie dans la vie active et on se pose la question sur nos aspirations, sur ce qui fait sens pour nous, sur quoi on a envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les années à venir. Quelque chose qui me tient à cœur, donc c'est encore compliqué.
Mais vous pensez encore que c'est compliqué qu'à 40 ans, pourquoi je vous pose la question? Parce que à travers Femme d'aujourd'hui et sa version homme, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont décidé de changer de cap de vie, même presque à la cinquantaine ou même au-delà de la cinquantaine. Donc il y a justement cette perception que c'est compliqué de rebondir professionnellement à 40 ans. Vous avez réussi à le faire. D'autres ont réussi à le faire. Est-ce que c'est toujours compliqué ou c'est finalement un frein mental qu'on se met?
C'est un peu des deux. Parce qu'au fait, c'est clair que c'est pas toujours évident. Il faut être réaliste. On est dans un contexte et clairement, on va entreprendre. Et qui dit entreprendre dit prise de risque. La prise de risque, elle existe dans tout, il faut dire. Même en salariat, il y a la prise de risque. Clairement, entreprendre, on est les maîtres à bord.
Oui.
Donc, on est des personnes qui vont prendre des décisions, qui vont, etc. Et donc, quand on arrive à cet âge-là, de 40 ans, 42 ans, il y a ce frein mental de dire « Ah, attention, si je ne réussis pas, ça va être très difficile de revenir sur le salariat. » Ce qui n'est pas tout à fait... c'est-à-dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en recrutement, on va privilégier forcément des jeunes à 40-45 ans. C'est des postes beaucoup plus, c'est compliqué de revenir vers le salariat. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit des freins, parce qu'on peut toujours trouver un moyen. Et il faut toujours avoir des plans B, comme je dis moi, le plan B, le plan C. Si ça ne va pas comme ça, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Prendre des risques, oui, en même temps réfléchir. Donc c'est vraiment une sorte de curseur qu'on va mettre pour soi. Chaque personne a son propre curseur sur qu'est-ce qui peut me rassurer, comment je peux être rassurée pour pouvoir me lancer. Et là, il y a énormément de choses qu'on peut faire.
Alors aujourd'hui, j'imagine, vous remerciez la fermeture de l'entreprise dans laquelle vous étiez avant.
Oui, effectivement. Quand j'avais quitté, à l'époque, j'avais la possibilité de revenir vers le salariat. J'ai fait le choix de ne pas revenir vers le salariat. Je n'ai même pas cherché d'ailleurs. Et j'ai fait ce choix-là d'entreprendre. Et aujourd'hui, clairement, je pense que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises. Même si ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est tellement beau, tellement challengeant. Et ça te permet de... Franchement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce sentiment d'être vivante parce que ça te challenge tout le temps. Ça te fait bouger de ta zone de confort tout le temps. Ça te remet en question. Comme je le dis souvent, c'est chaque année, c'est comme si je refaisais l'année parce que rien n'est jamais acquis. et qu'il faut à chaque fois se réinventer. Et ça, c'est tant mieux pour nous, parce que ça te permet de grandir, ça te permet de développer, ça te permet d'apprendre. Donc oui, c'est vraiment pour moi, en tout cas, moi je le vois comme une très très belle opportunité qui a du sens.
Alors, il y a 14 ans, vous avez entrepris, vous aviez 40 ans. Donc, si on fait le calcul aujourd'hui, vous en avez 54, c'est ça ?
Tout à fait.
Quand on est dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on prépare sa retraite ou pas ?
Il faut préparer sa retraite de toutes les façons, bien sûr. Donc, la préparation, elle est différente. Parce que quand on est entrepreneur, on peut travailler jusqu'à l'âge qu'on veut. Ça, c'est l'avantage aussi, qu'on peut ne pas s'arrêter à l'âge de la retraite. Mais clairement, on prépare, on est conscient qu'il y a aussi une évolution avec l'âge. Donc, réfléchir, anticiper et voir un petit peu comment on peut capitaliser sur toutes ces années-là et continuer à être active, en tout cas pour ma part. Pour ma part, c'est rester actif d'une manière ou d'une autre.
Oui, absolument, à votre rythme.
À votre rythme, on peut travailler aussi dans l'associatif, on peut faire du give back, accompagner des jeunes, etc. En tout cas, il faut rester dans l'action parce que clairement, c'est ce qui maintient.
Oui.
C'est ce qui maintient en forme, c'est ce qui maintient aussi notre activité cérébrale, notre activité physique, etc. Donc, c'est très important.
Alors, une autre question. Vous avez monté un cabinet de conseil et d'accompagnement. Alors, est-ce que quand on est dans l'entrepreneuriat, qu'on monte son propre cabinet, est-ce qu'on a envie de le léguer à ses enfants ?
Encore faudrait-il qu'ils veuillent.
Oui, je sais. Mais d'abord, est-ce qu'on se pose la question ? Est-ce qu'on se dit, j'aimerais en fait, ce boulot que je suis en train de faire, ce nom que je suis en train de construire, cette marque que je suis en train de développer, j'aimerais finalement donner ce capital à mes enfants ? Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête ?
La vérité, je me dis, la vérité, non, pour être tout à fait franche. Pourquoi ? Pas le cabinet en tant que tel, parce que mes enfants, ils sont dans d'autres activités, qui n'a pas de lien avec ce que je fais, forcément. Mais par contre, c'est clair que je me dis, ce capital-là, par la suite, ce serait intéressant de le transmettre, ça c'est sûr. De le transmettre à quelqu'un qui va le porter avec son cœur et qui va pouvoir perpétuer cette action, cette activité. Mais en tout cas, pour le moment, j'y suis encore. Donc je réfléchis pas beaucoup.
Alors justement, à votre avis, à quel moment il faut commencer à préparer sa retraite ? Vers quel âge ?
Vous savez, la retraite se prépare très jeune. Et il faut dire la vérité. Et ça, justement, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement à la pré-retraite. C'est un de mes créneaux aussi. Donc, j'accompagne des personnes à justement préparer leur retraite sur tous les plans. D'abord, sur le plan mental, parce que c'est très important. Sur tous les domaines de leur vie, de préparer, de voir un peu comment est-ce qu'on peut continuer à vivre différemment, à redéployer son temps sur des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous ressourcent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire depuis très jeune, d'abord sur le plan financier, pour être sûr que quand on arrive à l'âge de la retraite, on a ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Ça s'anticipe, ça ne se travaille pas du jour au lendemain. Et puis, 4 à 5 ans avant le départ en retraite, en tout cas pour les personnes qui travaillent en entreprise, déjà commencer à réfléchir à éventuellement une reconversion professionnelle, ou à faire quelque chose, une activité sociale, ou faire un impact sur la communauté, ou quelque chose qui va nous permettre de continuer à donner et à partager tout ce qu'on a pu apprendre durant notre carrière.
Amal Hihi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.